disais tout à l'heure, les jeunes rappeurs sont, semble-t-il, à la pointe de la révolte dans la République islamique iranienne. Alors, qu'en est-il ? C'est une autre revue qui s'appelle Omid et Jawan de Téhéran qui nous en parle. Les adeptes de la musique rap, ou rapis, comme on dit à Téhéran, sillonnent les rues de la ville malgré les pressions et les menaces d'arrestation que font peser sur eux les agents de la police des mœurs. Ils se distinguent par leurs vêtements et pour les garçons, c'est comme on vient d'en parler aussi, jeans serrés, t-shirts imprimés et coiffures à l'américaine. Qu'est-ce que c'est ? Reste à le savoir. Pour les filles, eh bien, même tenue mais dissimulée, bien évidemment, sous un large manteau et un foulard. Et certains jeunes rapistes déclarent être malgré tout de bons musulmans qui prient et jeûnent durant le ramadan. Par exemple, ils disent « Les agents ne devraient pas nous empêcher de nous amuser et de nous habiller comme nous voulons. Il n'y a aucune raison qu'un rapi n'aille pas à la mosquée. S'habiller à la mode n'a rien à voir avec la foi. Vous pouvez nous reconnaître désormais comme étant des rapistes croyants. » La jeunesse iranienne se plaint du manque d'attention à son égard, ainsi que des interdits qui pèsent sur elle. Par exemple, une jeune fille a été arrêtée et réprimandée par la police, et elle explique qu'elle se sent attirée par le rap et le heavy metal parce que les jeunes n'ont rien pour se divertir en Iran. « Personne ne pense à nous », clame-t-elle, « et personne ne nous aime. Nous sommes complexés, car nous avons été élevés d'une manière très autoritaire, on nous commandait sans cesse, ne va pas à tel endroit, ne mets pas tel vêtement, ne fréquente pas telle personne, ne laisse pas tes cheveux sortir du voile. Alors vous savez pourquoi les jeunes meurent d'envie d'aller à l'étranger et se réfugier dans des musiques comme le rap ? Eh bien c'est parce qu'ils ne savent pas pourquoi et pour qui ils vivent. Alors, en s'habillant d'une manière bizarre, ils veulent attirer l'attention. » Alors cette jeune fille, elle se demande pourquoi il est interdit aux jeunes de sexe opposé de s'adresser la parole. Comment se fait-il, dit-elle, qu'à la télévision, les femmes et les hommes ont le droit de se parler ? Un jeune homme de 19 ans suggère aux autorités d'inviter les chanteurs et acteurs de la diaspora, adorés en Iran, à revenir dans le pays. Ainsi, ils se produiront dans un pays où l'on trouve l'une des plus fortes proportions de jeunes du monde. Et alors, dit-il, nous ne serons plus obligés de les voir seulement sur des cassettes vidéo ou de leur parler sur les ondes de la BBC. S'ils étaient en Iran, plus personne ne suivrait Michael Jackson. Pourquoi les responsables politiques aident-ils des mouvements ou des pays étrangers comme l'Afghanistan, alors que nous sommes nous-mêmes dans le besoin ? Répondant à une lettre qu'une adolescente de Tabriz a adressée au journal que nous citons, à savoir donc le Hamid et Jawan de Téhéran, eh bien, Le même jeune homme dont il vient de parler écrit donc dans le courrier du lecteur. « Ne pensez pas que seuls vos amis d'école à Tabriz aiment les étrangers. Nos oreilles sont remplies de musique techno ou rap. Personne dans ma classe ne connaît par exemple un très bon chanteur comme Bahram Asiri. Mais si on demande qui sont Michael Jordan ou Michael Douglas, tous les connaissent. La situation est la même à Téhéran. » Parmi les 4 millions de jeunes de 15 à 25 ans que compte la capitale, 100 000 peut-être participent à des manifestations littéraires ou culturelles. Les jeunes iraniens sont en manque. Dans la rue, on peut trouver 50 variétés de cassettes de musique ou vidéos, qui sont vendues bien sûr sous le manteau. Mais pour trouver le livre « Le voile » de l'ayatollah Motahari, qui est un ex-idéologue de la révolution et qui, malgré lui, son œuvre est considérée aujourd'hui comme très libérale, eh bien, pour trouver son bouquin, il faut chercher pendant 3 jours. Alors, tous les jeunes ne pensent pas ainsi, bien sûr, mais l'un d'eux, adversaire du rap, par exemple, critique ainsi les responsables du pays. Nous avons perdu les valeurs de notre révolution et nous retournons à celles de l'ancien régime. Mais malheureusement, ce désœuvrement de la jeunesse et toutes les questions qu'elle se pose amènent parfois à de la forte violence et un grave malaise. Et par exemple, l'exemple de cette jeune fille d'une famille riche à qui on a refusé le mariage et qui tue ses jeunes frères et sœurs et tente d'assassiner sa mère. Alors, à propos de faits de la sorte, une intense polémique dans la presse est sortie et en se posant la question d'où viennent le malaise et la violence de la jeunesse. Et on voit à côté de l'article une image où un jeune homme et une jeune fille sont couchés dans l'herbe, très proches l'un de l'autre. Et on se dit que ce genre de liberté, on le suppose, un jardin de Téhéran, si par hasard ils étaient pris sur le fait par la fameuse milice des mœurs du régime, eh bien on peut imaginer que ces deux jeunes risqueraient un mauvais moment, du genre prison au coup de fouet, mais qu'apparemment ça n'a pas l'air de les gêner puisqu'ils se prélassent quand même dans l'herbette. Alors, La fameuse violence dont on parlait, dont je viens de vous citer un exemple, cette jeune fille meurtrière à 16 ans, pourquoi? Comment se fait-il? Alors, ce fait divers a été le plus marquant de l'année et vraiment, il a pesé lourd. C'est donc le double meurtre qui s'est produit à l'avenue Gandhi le 1er janvier 1997, quand cette jeune femme, Soumaye, a étranglé sa sœur de 14 ans pendant son sommeil avant de tuer son petit frère de 8 ans dans la salle de bain. Elle était assistée pour cela par son petit ami, 16 ans, lui aussi. Et les deux adolescents s'en sont ensuite pris à la mère de Soumaye, qu'ils ont essayé de tuer avec un couteau. Mais celle-ci a pu s'échapper, non sans avoir subi quelques blessures. Soumaye et son ami ont aussitôt été arrêtés. Et dans sa déposition, la jeune fille a déclaré qu'elle avait souhaité sa propre mort à maintes reprises et qu'elle détestait sa famille, laquelle avait rejeté son ami qui demandait sa main. La découverte par les forces de l'ordre d'une antenne parabolique, qui, on le sait, sont interdites par la loi, sur le lieu du crime, donc dans la famille, a redonné l'occasion à la presse conservatrice de la République islamique iranienne de s'en prendre à l'invasion culturelle de l'Occident, et ainsi qu'aux effets néfastes des vidéos et des films diffusés par les chaînes satellites. La situation aisée de cette famille libérale qui vit dans les quartiers chics du nord de la capitale, Téhéran, confirmant ainsi la thèse de la corruption des riches insouciants influencés par les perversités américaines. Mais selon le quotidien téhéranais Salam, la télévision par satellite, l'informatique, les films occidentaux, la drogue et Internet constituent la source de l'insécurité de notre société. Par ces moyens diaboliques, nos ennemis attaquent nos valeurs spirituelles et nous perdons la bataille culturelle. Toutes nos positions de repli s'effondrent une à une. Autre journal de la capitale iranienne, l'hebdomadaire Kayan, a demandé aux autorités de mettre un terme immédiat à la corruption sociale et aux comportements immoraux qui conduisent à ce genre de drame. Pour ce même journal, la question est de savoir comment ces deux jeunes gens pouvaient aussi facilement se fréquenter. Drôle de manière de se poser ce type de questions-là devant ce type de violence-là. Alors, l'affaire de l'avenue Gandhi, comme tout le monde l'appelle à Téhéran, a pourtant fortement ému le public et suscité de nombreuses polémiques sur les mots de la société iranienne d'aujourd'hui. Les programmes satellites sont-ils vraiment les responsables de la violence des jeunes ou celle-ci est-elle due à d'autres choses, par exemple à un sentiment d'étouffement? Quel âge avaient ces jeunes quand la révolution a eu lieu, se demande par exemple l'hebdomadaire Karvan Karega, qui signifie « travail et travailleur », pour qui ce meurtre est révélateur de l'absence d'attention des autorités aux besoins et aux aspirations de la jeunesse. La plupart des spécialistes ont mis l'accent sur la naissance d'une classe de nouveaux riches pour expliquer de pareils drames. Trop de gens dépourvus de culture et de moralité se sont enrichis après la révolution. Et donc, selon un docteur en psychologie à Téhéran interrogé par le journal d'opposition Kayan, qui est publié à Londres, eh bien, ces nouveaux riches ont seulement appris à rouler dans des voitures de luxe et avoir des fréquentations bizarres. Ils ne pensent pas à l'éducation de leur famille. À l'heure actuelle, il y a un vrai malaise dans notre société. Ces adultes n'exercent aucune surveillance sur leurs enfants. La crise frappe une certaine jeunesse. Pour quelles raisons des jeunes de 16 ans veulent-ils se marier plutôt que de penser à leurs études, au sport ou à l'art? Sans doute, conclut la revue, c'est parce que ces activités ne leur sont pas, leur sont inaccessibles. Alors le père de cette jeune fille de 16 ans qui a tué donc son frère et sa sœur et menacé gravement sa mère, il a retiré sa plainte contre les deux adolescents, mais la jeune fille a tout de même été condamnée le 24 avril dernier à 12 ans de réclusion, 9 pour le meurtre de sa sœur et de son frère, 3 pour la tentative d'assassinat sur sa mère, et le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur le sort qui attend son complice. Nous allons quitter l'Iran et c'est toujours très grave problème. On le voit surtout avec les femmes, mais on voit que ça touche la jeunesse plus dans son ensemble. Pour partir en Pologne et lire un article extrait de la Rzeczpospolita, un journal de Varsovie qui titre « Le pape, le sexe et les filles violées ». Ce titre bien accrocheur, pourtant, pour évoquer une question bien intéressante défendue par un homme, à savoir son opposition à l'appel du pape Jean-Paul II aux femmes bosniaques violées pendant la guerre, à qui il demandait de ne pas avorter lorsqu'elles se trouvaient enceintes après avoir été violées. Écrivain polonais installé en Italie, Gustav Erling Grudzinski a été extrêmement révolté par cette intransigeance de l'Église, je le répète, qui parle la bouche de Jean-Paul II, a demandé et exigé des femmes bosniaques violées pendant la guerre de ne pas avorter des enfants dont elles pouvaient être enceintes. Alors cet écrivain polonais, cette intransigeance qui l'a tellement révoltée l'a poussée à écrire une nouvelle qui a pour titre « Beata Santa », « Heureuse sanctifiée », qui a fait le tour du monde. Elle a d'abord été publiée en polonais, puis ensuite elle a été traduite en anglais, en tchèque, en italien et en français, entre autres dans la revue « Légende » qui a été publiée en 1996. Et c'est une interview avec cet écrivain que j'ai envie de vous lire, qui a été publiée dans un journal de Varsovie, parce que je pense que la prise de position d'un homme sur cette question est intéressante à découvrir. Alors, le journaliste de la revue de Varsovie pose cette première question à Gustav Erling Grudzinski. « Comment expliquez-vous, lui dit-il, le succès extraordinaire de votre nouvelle « Beata Santa » ?» L'écrivain polonais répond « Eh bien, pour la première fois, j'ai écrit un texte pour exprimer un besoin de protestation. À vrai dire, je ne me croyais pas capable de mener à bien une telle tâche, tant le sujet me semblait dépourvu de noblesse. Tous les médias parlaient des crimes, des viols et des cruautés commis par l'armée serbe en Bosnie-Herzégovine. Et un jour, nous avons entendu et lu l'appel de Jean-Paul II aux femmes bosniaques violées et qui étaient tombées enceintes pour qu'elles portent à terme les enfants conçus. Cela a provoqué en moi une immense indignation. Mais comme je n'avais jamais écrit pour protester, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait plutôt d'un sujet pour un article. C'était une expérience inhabituelle pour moi. Alors j'ai traité avec une tendresse exceptionnelle l'héroïne de ma nouvelle, le personnage fictif de Mariana K. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles la nouvelle a pris corps et est devenue une véritable composition littéraire au lieu de rester un simple texte de protestation journalistique. Cet appel du pape encourageait ces femmes à accoucher et à aimer leurs enfants. Pour moi, c'est inconcevable, car selon moi, chaque enfant devrait être le fruit de l'amour. Et comment l'aimer s'il est la conséquence d'un viol, d'un acte cruel et d'une humiliation ? Dans ma nouvelle, j'ai voulu montrer le rapprochement dangereux entre les principes moraux, le dogmatisme et l'hypocrisie. Et même si l'on considère que cet appel n'était qu'une réaction spontanée aux événements de Bosnie, il reste néanmoins extraordinairement symptomatique. La lutte pour l'interdiction de l'avortement s'est transformée en une authentique doctrine. Je conçois parfaitement qu'on puisse s'opposer à l'avortement, en le considérant comme une atteinte à la vie humaine. Je suis également contre l'avortement, mais à condition de permettre l'utilisation des contraceptifs. Autrement dit, la stigmatisation de l'avortement est un non-sens horrifiant, s'il n'y a pas cette possibilité-là. Alors je persiste dans mes positions contre l'appel du pape, autant que lui persistera dans les siennes. Je considère que son erreur n'est pas due au hasard. Je le répète, l'Église ne peut pas s'opposer à l'avortement tant qu'elle ne veut pas autoriser la contraception. Cela est incompréhensible, même pour les philosophes catholiques, surtout ceux qui travaillent en Afrique ou en Amérique latine. Cependant, l'entêtement de Jean-Paul II non seulement ne fléchit pas, mais ne fait que se renforcer. C'est un grand problème du catholicisme actuel. L'hypocrisie de l'Église consiste à autoriser un moyen de contraception complètement inefficace, connu sous l'appellation de la fameuse méthode Gino-Knaus. Peu de gens se souviennent que Jean-Paul Ier, le prédécesseur du pape actuel, qui a régné durant 6 semaines, était prêt à autoriser la pilule. Le pape actuel n'accepte aucune possibilité de contraception. La pilule, les préservatifs et les diaphragmes font tous l'objet de condamnations insensées. Je ne pense pas que la distribution gratuite de préservatifs à l'école soit le meilleur moyen de faire l'éducation sexuelle des jeunes gens, mais cela témoigne de la dimension du problème. Si les écoles le font, cela veut dire qu'il s'agit d'un problème brûlant auquel il faut trouver une solution. Et Jean-Paul II sera considéré par les historiens comme un homme qui a beaucoup contribué à l'écroulement du communisme, qui a changé la face de l'Europe et de l'Église, comme un homme doté d'une grande sagesse lorsqu'il parle de religion et de philosophie. Mais je suis désolée de constater qu'avec l'âge, il est de plus en plus obstiné face aux problèmes de société. J'ai observé ses récentes prestations où il évoquait les problèmes de la sexualité et je l'ai vu taper du poing sur la table avec énervement. Avant, il ne se comportait pas de cette façon. Cela signifie que les positions du pape sur le sujet n'évolueront pas. Je crois toutefois que l'Église devra changer et que cela se produira dès le prochain pontificat. Et mon amertume et ma protestation contre l'appel papal dont on parlait tout à l'heure, à savoir de demander aux femmes bosniennes qui avaient été violées de garder leur enfant, eh bien, mon amertume vient du fait qu'en invitant à laisser naître les enfants issus des viols, il a oublié qu'il ne s'agissait pas de femmes violées quelque part, par hasard, par quelques hommes. Beaucoup de ces femmes ont été retenues dans des camps durant des mois, dans des conditions inhumaines et ont été victimes de viols collectifs, de crimes de guerre. Le journaliste lui demande de préciser. Vous voulez dire que, dans ce cas précis, l'Église a traité ces femmes en tant que machines à accoucher ? Exactement. Tout comme l'ont fait les soldats serbes. Comment une femme peut-elle aimer son enfant sans savoir qui est le père ? Car si elles ont été victimes de viols à répétition, elles ne peuvent pas savoir quand et avec qui il a été conçu. Ces hommes les ont si terriblement maltraités. J'ai bien lu les témoignages. Qu'une femme aussi malheureuse doive en plus aimer l'enfant né à la suite d'une telle cruauté, pour moi, c'est terrible et incompréhensible. C'est Marta Sebenstein de Pologne qui chantait jusqu'à présent. Et pour terminer, eh bien, cette revue de la planète femme dans le courrier international de ses éditions hebdomadaires du mois de mai 97, nous allons terminer par une nouvelle qui nous vient de New York, mais pourtant qui évoque une histoire indienne. En l'occurrence, le premier roman d'une scénariste indienne originaire du Kerala est l'événement littéraire de l'année dans le monde nord-américain. Il décrit une société indienne considérée comme mesquine et engluée dans les convenances. Et l'écrivaine qui écrit, c'est Arundhati Roy. Alors, entre deux scénarios, Arundhati Roy, qui a 37 ans, décida d'apprendre à se servir d'un ordinateur. Alors qu'elle se familiarisait avec un logiciel de traitement de texte, une chose étrange se produisit, du moins c'est ce qu'elle raconte. Les mots qu'elle lançait au hasard formèrent des phrases, une intrigue s'ébaucha et Arundhati Roy, qui n'avait jamais écrit, ne serait-ce qu'une nouvelle, découvrit qu'un roman était en train de naître sous son clavier. Ça sortait aussi naturellement que de la fumée, se souvient-elle, et ça n'a pas tardé à m'obséder. Et son obsession fut contagieuse, puisque, en effet, elle écrivit « The God of Small Things », le Dieu des petites choses, qui raconte l'histoire d'une famille vivant en pleine tragédie dans le sud de l'Inde. Et cette nouvelle-là est devenue l'événement littéraire de l'année aux États-Unis. Sorti à la mi-avril dans son Inde natale, le roman de Arundhati Roy sera publié dans 19 pays et dans 16 langues au cours des 6 mois qui ont suivi. Effet merveilleux pour un livre qui, d'après son auteur, a vu le jour pratiquement tout seul. Eh ben, c'est vrai que d'être publié si rapidement partout, c'est vraiment merveilleux. Lorsqu'il a surgi sur les grandes sonneurs des natas, eh bien, l'écrivaine est restée pratiquement collée à son clavier dans son petit appartement de New Delhi, au mur couvert de livres, et elle n'a pas lâché son manuscrit que pour ses cours d'aérobic. On adore toujours les petites remarques sympathiques qu'écrit le Time Magazine dans ses articles. L'écrivaine Arundhati Roy ne revient jamais sur ce qu'elle écrit parce que, dit-elle, ce serait comme revenir sur une respiration. Mais les traces sont venues lentement puisqu'il lui aura fallu en tout 4 ans et demi pour rédiger son roman. La réaction rapide des éditeurs étrangers a pris par surprise cette femme qui est une ancienne architecte et une ancienne actrice de cinéma. Et dans mes instants les plus optimistes, dit-elle, je me disais qu'il intéresserait peut-être un petit éditeur. Et au lieu de quoi, elle est devenue célèbre du jour au lendemain lorsque les quotidiens ont annoncé que l'éditeur britannique HarperCollins lui aurait versé une avance de près de $250,000 et que l'américain Random House lui aurait versé $160,000. C'est vrai que ça encourage une écrivaine de se voir accepter rapidement de cette façon-là. Alors Arundhati Roy accepta l'argent, bien sûr, mais jusqu'à une date récente, refusa les interviews parce qu'elle voulait que les journalistes patientent jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de parler du livre lui-même. En fait, l'intrigue donc de son livre « The God of Small Things », « Le Dieu des petites choses » est extrêmement simple. C'est une histoire qui se passe en 1969 au Kerala, donc cet état du sud de l'Inde. Dans une ville de l'intérieur, moins étouffante que suintante de pourriture, de déception, de mesquinerie familiale et de sclérose sociale, le personnage principal s'appelle Amu. C'est une femme divorcée, mère de jumeaux de 7 ans, qui se laisse aller une aventure amoureuse interdite au moment précis où des membres de sa famille arrivent de cette Grande-Bretagne si lointaine et si admirée. Et l'un des visiteurs va trouver la mort et l'aventure d'Amu va virer au drame. Il y a des rivières impétueuses, des pluies hors saison, une vision intéressante de la vie des chrétiens de l'église syrienne du Kerala, une minorité qui conserve beaucoup de préjugés à l'encontre des hindouistes. Et puis on y voit aussi, on y entend parler, est évoqué dans le livre « Les grandes préoccupations sociales de cette région » ou de l'Inde en entier, à savoir le problème des castes, la condition difficile des femmes, la politique communiste. Et le dieu des petites choses, puisque c'est donc le titre du livre, mais c'est aussi des convenances, hein, le dieu des petites choses, est finalement le grand vainqueur de cette histoire, et celui de l'amour et du bonheur qui finit au contraire par perdre. L'action de ce roman a l'atmosphère un peu glauque, ça c'est de la responsabilité de l'auteur de l'article du Times. Eh bien, donc selon lui, ce roman a l'atmosphère un peu glauque, tient tout entière en deux semaines, et son dénouement se passe en une seule nuit, et ce n'est pas là un jugement critique, puisque il y en a d'autres romans qui se déroulent en 24 heures à peine, mais pour Arundhati Roy, elle a concentré l'essentiel de son histoire, semble-t-il, dans les 80 dernières pages de ce pavé qui en compte 340. Elle prend son temps pour tisser la toile de fond avec d'incessantes projections vers l'avenir qui donnent un aperçu de ce qui va arriver. Chaque lieu est décrit dans le cadre d'un malheur futur. Par exemple, Amu vit dans une chambre dont les murs allaient bientôt apprendre des secrets déchirants. C'est vrai que ça crée le suspense un petit peu. Même un sourire sur les lèvres d'Amu assoupi ne réussit pas à cacher une grande souffrance. Autre citation, c'était un sourire qui ne laissait nullement deviner que l'être auquel il appartenait était une bombe prête à exploser. Alors, ce roman, toujours selon l'auteur de l'article du Time, ce roman ressemble à des mémoires cruellement réinventées et l'auteur dit d'une certaine façon que c'est une histoire qui l'habite elle-même depuis toujours. Elle-même est issue d'une famille chrétienne syrienne et sa mère, Mary, a des points communs avec l'héroïne Amou. Sa famille, qui n'avait pas accepté son mariage avec un planteur de thé hindouiste, ne lui pardonnera jamais le divorce qui s'en suivit. Et l'écrivaine et son frère grandirent au milieu de toutes ces tensions familiales, même si sa mère eut un destin différent que celui d'Amou. En effet, elle contesta les lois sur l'héritage excluant les filles et obtient gain de cause. Ainsi, Arundhati Roy, qui est donc l'écrivaine, pourra quitter le Kerala pour étudier l'architecture et pour faire des économies. Et elle va vivre dans une masure en tôle, dans un bidonville de New Delhi. Elle renoncera à ce métier d'architecte, elle vendra des gâteaux sur la plage. Bref, finalement, jouera dans un film et se lancera dans l'écriture de scénarios. Alors, peut-être que les lecteurs indiens seront un peu rebutés par les descriptions toujours un peu crues de leur pays, semble-t-il. Mais dans l'Inde d'Arundhati Roy, on découvre une terre qui est très dénuée d'espoir et où règne une misère sans nom. Ça, je crois que c'est un peu la réalité. Les immeubles tiennent à peine debout et les routes sont jonchées d'animaux écrasés. Bref, on y rencontre même à un moment un éléphant électrocuté. Je refuse tout simplement d'être opprimée, dit Arundhati Roy, et chaque page de son livre, pourtant, dégouline de pression. Alors, visiblement, l'écrivaine ne laissera pas le succès lui tourner la tête. Elle insiste sur le fait que ce roman pourrait être à la fois son premier et son dernier. Et il est évident que je n'écrirai pas un livre simplement parce que je suis écrivain, dit-elle. Je ne crois pas aux professionnels. Reste à savoir si elle le pense vraiment et si cela décevra ses lecteurs, à savoir surtout ses lecteurs américains, semble-t-il. Je vous rappelle le titre du livre d'Arundhati Roy, si jamais cela vous intéresse. Donc c'est « The God of Small Things », le Dieu des petites choses.
क्यों डालते हो माथे पे भूले के
Voilà, aujourd'hui Remue-Ménage c'est terminé et c'est notre dernier Remue-Ménage en direct pour ce mois de juin. À partir de la semaine prochaine, vous retrouvez des rediffusions. Je vous propose pour mercredi prochain et la semaine d'après la rediffusion des carnets de route regard au féminin sur la Mongolie. Puis ensuite, vous découvrez d'autres émissions Femmes et Sida et Mère-Fille qui discutent de l'engagement. Voilà les émissions proposées en rediffusion pour le mois de juillet prochain. Voilà, je vous souhaite quant à moi aussi un très bon été et on se retrouve en direct au mois de septembre.
L'argent, la clé du monde. L'argent, bâtir le monde. Wari, le nom du Niyadiyala.
Demi-sel.